Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 27 mai 1992 à Saint-Jodard.
Nous étions à la quatrième modalité de l'acte, l'opération vitale. Et je vous avais dit que ces deux dernières modalités, de fait, demeurent imparfaites au point de vue métaphysique. C'est la vie qui absorbe l'être, en quelque sorte. C'est très curieux ce phénomène du vivant. L'homme, et c'est important de le constater au point de vue métaphysique, nous avons donc les trois niveaux d'opération vitale. L'opération vitale dans la vie végétative, ce que nous avions vu, dont l'opération la plus parfaite, celle qui finalise tout. Les philosophes ont affirmé le primat de la négation. savoir du tout ce qu'il faisait. C'est ça. Alors, pour un chrétien, c'est l'astuce du démon. C'est la bête de la mer dont la tête est tuée et qui renaît. Si on veut comprendre un peu, c'est pas l'homme qui a inventé ça. Mais il fallait qu'il y ait une complicité. Autrement, l'homme n'aurait pas accepté. Dans toutes les bêtises politiques, il y a toujours des complicités. Et alors, il faut saisir la complicité, c'est-à-dire où il y a eu séduction. Parce que les complicités viennent toujours d'une séduction. Séduction intellectuelle. Et comment se fait-il que un pays arrive à se suicider. On assiste ça, on assiste profondément au suicide de la France. Je crois, si on est un tout petit peu clairvoyant, comment ça se fait? Il y a un problème profond, métaphysique, au point de vue philosophique. C'est à un moment donné où la négation est passée avant l'affirmation. Choisir la mort, c'est ça. Bon, ben ça se fait pas en toute lucidité. C'est pour ça qu'on dit que c'est vrai, je crois que c'est très vrai que tous les gens qui se suicident, ce n'est jamais dans une lucidité parfaite. C'est une maladie. Une maladie psychologique. Le primat du psychologique conduit au suicide. Les psychologues ne l'accepteront pas, mais c'est un fait. Comment on raconte toujours ces choses-là? Non, on assiste à ça, on assiste à ces choses-là. Aujourd'hui, on se tait, on ne dit pas, je comprends. Mais c'est quand même assez affolant de voir ça. Au plan philosophique, si on essaie de comprendre. Alors, est-ce que dans la vie végétative, quand on essaie de comprendre un tout petit peu philosophiquement ce que c'est que la vie végétative, Dieu l'a voulu, donc c'est bon. Notre corps est bon. Ben, c'est sûr. Dans la vie végétative, il y a la mort. Alors, le philosophe ne peut pas dire conséquence du péché. Ça, le théologien le dit. Le croyant dit conséquence du péché. Donc, ce n'est pas Dieu qui a pris l'initiative de la mort. Dieu a été obligé par l'homme, dans sa justice, d'imposer la mort. Inventer la vie, mais n'a pas inventé la mort. Le point de vue du théologien, il peut dire ça. Le philosophe, lui, se trouve devant un fait. Il y a la mort. Et il faut se poser la question à quel moment on doit traiter de la mort, du point de vue philosophique. La mort, c'est la négation de l'acte. Ça, c'est sûr. La mort, c'est un primat de la potentialité. C'est la victoire de la potentialité. La mort. De la victoire de la dégradation. C'est juste l'inverse de l'opération vitale. C'est la négation de l'opération vitale. Donc c'est la potentialité prise substantielle. Le philosophe constate la mort. Et pour lui, j'allais presque dire, c'est un mystère. C'est peut-être le mystère philosophique. l'esprit soit vaincu par la matière. Et c'est ça, c'est que l'esprit est vaincu par la matière. Philosophiquement, on ne peut pas considérer que la mort est un bienfait. Non, absolument pas. Ceux qui disent ça, ils ont l'esprit tordu. La mort n'est pas un bienfait. La mort est une négation. Et c'est la constatation de la victoire, de la négation sur l'opération vitale. Et ça s'impose. Alors, est-ce que n'y a-t-il pas là comme une expérience très radicale, les psychologues disent, et je crois que là ils ont raison, que de fait la mort est source de toutes les angoisses. Autrement dit, s'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait pas d'angoisse. Donc l'angoisse, c'est l'hirondelle qui annonce la mort. Et c'est vrai, je crois que c'est ça, l'angoisse. Et ça nous saisit de façon telle, ça nous inhibe complètement, que ça nous empêche d'avoir des initiatives, ça nous empêche d'être ce que nous devons être. Un être angoissé, on ne sait pas quoi faire pour le sortir de son angoisse. S'il y a eu une amitié avec lui avant l'angoisse, on peut arriver. Mais quand il n'y a pas d'amitié, quand il n'y a pas eu d'amitié, quand vous êtes en face de quelqu'un qui pour vous est un étranger et que vous voyez angoissé, vous ne savez pas quoi faire. Alors, mettez des remèdes chimiques ou pour l'endormir. D'une façon, une stratégie. Quand on voit quelqu'un qui est en train de se noyer, on plonge la tête dans l'eau encore un peu plus pour qu'il disparaisse, et puis on espère que ça sortira. Vous plongez comme ça dans le sommeil, ça va sortir. Qu'est-ce que ça va sortir? On ne sait pas. C'est un procédé de. Parce qu'on ne sait plus. Alors, on va plus loin. Je crois que notre monde philosophique est très impressionné par la mort. Et dans la mort, il y a donc la victoire de la négation sur la vie. La mort, c'est ça. Dans l'ordre de la vie végétative, si la finalité de la vie végétative, ce qui finalise la vie végétative, c'est la procréation. Parce que par la procréation, le vivant fait que l'espèce, la nature humaine, peut être victorieuse de la mort. Par la procréation, par l'être nouveau qui apparaît, qui naît, il y a la nature humaine, l'espèce humaine qui continue, et donc qui est victorieuse de la mort. Mais voyez bien, ce n'est pas l'individu, c'est l'espèce. Est-ce que c'est une véritable victoire? C'est une certaine victoire. Et les anciens disaient donc la marque quelque chose d'éternel qui demeure au milieu de toutes ces ruptures individuelles de mort. Il y a quelque chose dans l'immanence du vivant C'est donc une victoire. Dans un terme philosophique, on dirait la victoire de l'essence sur l'existence. La victoire de quelque chose d'abstrait. La nature. La nature comme telle n'existe pas, il n'existe que des individus. La victoire de l'espèce, de la nature sur la mort. Quelque chose d'abstrait. Donc, qui, pour l'individu, n'existe pas. Très bien de dire, vous allez survivre, vous ne mourrez pas grâce à votre voisin ou grâce à votre fils qui continue. Consolation très particulière au plan métaphysique. Consolation affective, intentionnelle, mais au point de vue de la réalité, c'est pas dans mon voisin, dans mon fils, dans celui qui survit, c'est moi, au point de vue existence, je suis seul. Donc, la négation existentielle apparaît dans toute sa force, elle apparaît d'autant plus forte que l'espèce survit. Si après moi le déluge, ça irait, n'est-ce pas ? Tout disparaît à ma mort, au moins ma mort est glorieuse. Tandis que si tout continue après ma mort n'est pas glorieuse du tout. Il me disait une fois un vieux père dominicain qui disait : quand on meurt jeune, on pleure sur vous. Quand on meurt vieux, on dit : c'est normal. C'est l'oraison funèbre, c'est normal. Et avant qu'on meure, déjà sur la cellule dans laquelle on aime le suivant. Et c'est très juste, c'est dit avec un peu d'humour, mais c'est très juste. Vous voyez, c'est que la mort comme telle, c'est la négation de l'individu. Et c'est la survie de l'espèce. Alors, comment dépasser la mort ? C'est de faire de l'espèce une réalité. Donc, c'est la négation, l'abstraction de l'espèce pour que l'espèce puisse être victorieuse. C'est très curieux. Mais en fond, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que ce ne serait pas ça l'âme de la dialectique ? Comme ça, on évite la mort. On évite le drame de la mort. Puisqu'on survit dans une espèce qui existe. Donc, la mort est relativisée par l'espèce. Et pour ça, il faut faire de l'espèce une réalité. Je crois que dans la mort, au plan philosophique, la mort de l'homme, la mort de l'individu, de la personne, il y a ce primat, cette victoire de la négation qui est très impressionnante et qui est très forte. Parce que, de fait, la négation l'emporte au point de vue existentiel, donc au point de vue de l'essai, donc au point de vue de l'acte. Puisque, au plan métaphysique, on a vu que l'essence est relative à l'exister. Première mode de l'acte. Et là, on voit que par la mort, l'individu dans son existence disparaît et que c'est l'essence qui demeure. Donc primauté de puissance sur l'acte. Et s'il y a primauté de la substance, de la puissance sur l'acte, il y a donc une primauté de la négation sur l'acte, sur l'affirmation. Le philosophe ne peut s'en tirer devant ça que s'il comprend que la mort n'est pas la négation de la vie. Alors là, il retrouve le primat de l'affirmation. Mais pour voir que la mort n'est pas la négation de la vie, il faut comprendre que la vie végétative, elle n'est pas tout. Ça soit éternel. Ils vont donc se suivre par un autre médecin, et ainsi de suite. C'est une vision purement imaginative. On ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Et donc, il faut nécessairement que la mort l'emporte. Et si la mort l'emporte, c'est la négation qui l'emporte sur l'affirmation. Et que seul l'esprit permet de sauver le primat de l'affirmation. Et le primat de l'affirmation permet de sauver que l'acte est fin et que la puissance est relative à l'acte. Parce que dans l'ordre de l'individu, dans l'ordre de la vie végétative, il y a un primat de la puissance sur l'acte. Or, la vie végétative est la seule substantielle en nous. C'est la vie substantielle. Il n'y a pas de vie substantielle au niveau de l'esprit. Alors ça, c'est aussi très curieux, parce que ça montre qu'une métaphysique de la substance, laissée à elle-même sans la métaphysique de l'acte, ne peut pas sauver l'esprit. C'est fondamental, la substance. Mais la seule vie substantielle, c'est ma vie végétative. Mais comment la réflexion sur l'acte et la puissance par rapport à ma vie végétative me révèle des choses assez étonnantes? Comment l'homme peut-il arriver à affirmer la primauté de la négation sur l'affirmation? Je crois que c'est cette affirmation de la mort qu'on ne peut pas nier. Et comment pouvez-vous alors à ce moment-là sauver le primat de l'affirmation sur la négation, qui est la seule manière pour l'homme au plan philosophique de sauver l'homme du suicide et du suicide collectif? C'est l'esprit. Parce que dans l'esprit, la mort ne touche pas mon âme immortelle. Alors si la mort ne touche pas mon âme immortelle, mon âme immortelle demeure témoin de la primauté de l'acte sur la puissance. Réfléchissons aussi sur ce fait de la vie végétative et de l'opération vitale de la vie végétative. C'est quand même très important, puisque la vie végétative, c'est quand même ce qui pour nous est premier dans l'ordre génétique. Alors s'il n'y a pas l'ordre de nature, de perfection, la vie végétative a tout commandé. Et la vie végétative, je vous affirme, commande pas mal la politique française actuelle. On est à ce niveau-là. Donc de la glissade universelle. La vie végétative dans la nutrition. Regardons d'abord la nutrition. Est-ce que c'est l'aliment qui est l'objet de ma vie végétative, qui détermine ma vie végétative, ou est-ce qu'elle ne fait que la conditionner? Question très intéressante. dans l'analyse que je fais de la nutrition. Qu'est-ce qui détermine ma nutrition comme opération vitale? Qu'est-ce qui la conditionne? Ce qui la conditionne, évidemment, si je prends des champignons vénéneux, ma nutrition se fera très mal. Et elle conduira à la mort. Mais ce qui t'est arrivé à Fribourg, ce qui a secoué tout, des bonnes religieuses, la bec rouge, des cisterciennes, avaient reçu un panier énorme de champignons. Et la personne qui les avait offerts généreusement avait dit, ils sont tous bons, mais ça, vous pouvez en garantir absolument. Les sœurs avaient pris ces champignons. C'était un cadeau pour les pauvres. Et un cadeau qui était plein de venin. Et toutes se trouvaient malades. Alors, toute la ville savait que toute la vie, la mégrouche était malade. À cause, c'est presque la mort. Presque. Celle qui avait été un peu plus gourmande. Tout proche de la mort. Celle qui avait été encore prudente et qui s'était dit, attention, on réchappait. Bon, alors, vous voyez, ceci, c'est l'aliment, condition nécessaire pour l'assimilation. Mais c'est pas l'aliment qui commande l'industrie, qui commande l'assimilation. C'est le vivant. La subjectivité transcendantale de Kant est au niveau des champignons. Le vivant, dans la vie végétative, il est la mesure de l'assimilation. Il y a un petit combat dans les situations limites des champignons. Il y a un petit combat qui se fait entre l'assimilation et la non-assimilation. Est-ce que le vivant est suffisamment vivant pour arriver à rejeter le venin? Ou ce n'est pas assez vivant pour faire le discernement? Et alors à ce moment-là, il est totalement empoisonné. C'est intéressant de voir ça. Que la subjectivité transcendantale de Kant est vraie pour la vie végétative. Il faut beaucoup réfléchir à ça, parce que c'est la vie, ça, c'est la première opération vitale. Or, vous savez bien que le premier, dans l'ordre génétique, ne doit pas déterminer. Il est premier dans l'ordre génétique, mais il n'est pas premier dans l'ordre de perfection. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de perfection? Dans la vie, c'est la vie spirituelle, c'est la vie d'intelligence. Or, dans la vie de l'intelligence, qu'est-ce qui détermine l'assimilation intentionnelle de la pensée? C'est l'objet. Et le vivant est déterminé, spécifié par son objet qu'il pense. Autre chose est de penser à Dieu, autre chose est de penser aux champignons. On peut penser aux champignons et on peut penser à Dieu. Tandis que dans votre vie nutritive, même si la sainte religieuse pense à Dieu en mangeant les champignons, c'est le champignon qui va non pas déterminer l'assimilation, mais va conditionner. Et c'est sa vie végétative qui détermine. Subjectivité transcendantale. C'est très intéressant pour comprendre ce que c'est que l'acte dans la vie végétative, donc chez le vivant. vie végétative est première, et elle restera toujours première au niveau substantiel, au niveau primauté génétique. Or, de fait, dans la nutrition, qui est la première opération vitale, dans la nutrition, c'est le vivant, la subjectivité du vivant, qui mesure l'assimilation, et non pas la nourriture. La nourriture ne détermine pas. C'est le vivant qui détermine la nutrition. La nourriture ne fait que conditionner. Alors, la situation limite, c'est lorsque justement le vivant n'est plus assez capable d'assimiler. Parce qu'il y a trop d'éléments non assimilables. Et alors à ce moment-là, vous avez ou une indigestion, ou tout le reste. Il y a quelque chose qui fait que le vivant ne domine plus. Il est emporté par ce qui est non assimilable. Et donc il n'y a plus de nutrition. Mais comme c'est curieux de voir qu'il y a un fondement réel dans la subjectivité transcendantale. Et c'est la vie végétative qui l'emporte. Parce que c'est le premier dans l'ordre génétique. Et le premier dans l'ordre génétique l'emporte tout le temps, quand il y a une certaine fatigue. Alors, à la place seulement de conditionner, il détermine. Dans la vie végétative, le premier c'est la nutrition, selon l'ordre génétique. Mais le premier dans l'ordre de perfection, c'est la procréation. Dans la procréation, qu'est-ce qui détermine la procréation? Aujourd'hui, comme on est très très intelligent, on voudrait pouvoir déterminer la procréation. Comme c'est curieux. Alors que les primitifs qui respectent la vie végétative savent que c'est la nature qui détermine la procréation. Le père est père d'un enfant sans savoir exactement ce que sera cet enfant. Il le reçoit, comme on disait anciennement, dans les familles chrétiennes, on le reçoit comme un cadeau de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme ne détermine pas que sera ce petit individu. Vous voyez l'atavisme. Il ressemble au vieil oncle brigand. Parce qu'il y a dans la famille un dont on ne parle jamais, parce qu'il est en prison. Alors on n'en parle pas. Et en soi, celui qui l'a connu, les grands-parents ont connu ça, les parents déjà l'ont plus connu, les grands-parents savent bien, ils voient des traits, il ressemble à celui-là, oh alors, qu'est-ce que ça va devenir? Aujourd'hui, l'homme veut par l'art, la technique, déterminer l'individu. On commence par changer le sexe. On veut un fils ou une fille, on va le déterminer. Il a des yeux bleus, il aura des yeux bleus. Il n'y a pas de descendant avec des yeux bleus, ça n'a pas d'importance. L'art détermine. Comme c'est curieux. Qu'est-ce que ça veut dire quand on essaie de comprendre? Parce qu'il faut essayer de comprendre tout ça. On assiste à tout ça. La subjectivité transcendantale de l'esprit, de l'art. Il y a deux lieux de la subjectivité la nature et la transformer. Dans la procréation, qu'est-ce qui détermine la procréation? C'est la nature. C'est plus l'individu. C'est la nature, c'est une opération substantielle qui touche la nature. C'est pour ça que c'est quelque chose de si fort et de si impressionnant. Aujourd'hui, ça ne nous impressionne plus. Parce que l'individu veut dominer l'espèce et ne respecte plus la nature. Alors que les anciens respectaient ce qu'il y avait de tout à fait propre dans la procréation, c'est que c'est la nature qui s'impose, qui détermine. La procréation est déterminée par la nature. Alors, conditionnée par les gènes, conditionnée par l'individu, parce que la nature est existante dans les individus, mais en réalité, c'est la nature. C'est plus l'individu. C'est la nature qui détermine. Or, on voudrait dépasser cela et s'imposer par l'art. Et par l'art, c'est l'individu. Donc, qu'est-ce qui est acte dans la procréation? Je vous le disais tout à l'heure, c'est la nature. Au-delà de l'individu. C'est la nature qui détermine, qui actue. Alors, au point de vue métaphysique, on voit bien que dans la vie végétative, l'acte de l'opération vitale est déterminé par la nature ou par l'individu, la nutrition, la procréation. L'acte est donc dans l'immanence et ne dépasse pas l'immanence de la vie au niveau individu, au niveau espèce. Dans la vie végétative, on est en présence d'un primat de l'immanence vitale. Et l'opération vitale, l'acte de l'opération vitale, est entièrement dans l'immanence. Et on voit là deux immanences. Ce qui est aussi intéressant à voir pour comprendre ce que c'est que la vie végétative. L'immanence de l'individu qui se nourrit. Quand vous prenez votre petit déjeuner, vous êtes très fier parce que c'est l'individu qui domine la matière. C'est la fierté du vivant. Et c'est vrai, c'est très curieux à regarder, mais c'est la fierté du vivant qui domine la nourriture. Et c'est l'immanence de la nutrition, de l'acte de nutrition. Et le combat, quand on digère mal, est immanent. La lutte est dans le lac. Et quand il y a une situation limite, c'est justement parce que l'individu n'arrive plus, le poison a été trop fort, il a tout détraqué. Alors à ce moment-là, il n'y a plus, c'est la mort. Et dans la procréation, c'est l'immanence de l'espèce, de la nature. Il n'y a pas d'épassement. Donc au sens rigoureux, le conditionnement de la potentialité est tellement grand que l'opération vitale n'aboutit pas à un acte entre l'opération vitale de la nutrition et de l'opération de procréation. Donc dans l'opération vitale de la vie végétative, on ne touche pas la transcendance de l'acte. On demeure dans une immanence vitale qui s'impose à nous. Et l'acte émerge du conditionnement, émerge de la puissance, et est conditionné par cette puissance. Et donc, il y a tout le temps le mélange des deux. Dans l'opération vitale de la vie végétative, vous ne pouvez pas saisir une finalité qui s'impose au-delà du conditionnement. C'est très important, puisque c'est ce que nous connaissons en premier lieu au point de vue de l'opération vitale. Je pose la question, est-ce que dans certains cas où la psychologie veut s'imposer, est-ce que nous ne sommes pas en présence de quelque chose d'analogue ? On étudie l'acte humain par son conditionnement. Et on veut saisir l'acte humain entièrement par son conditionnement. Donc, on projette sur notre psychisme ce qui est vrai au niveau de la vie végétative. Il faut réfléchir à ça. Ce sont des modèles, vous savez. L'homme pense par des modèles. Or, la vie végétative est quand même quelque chose de très, très curieux. C'est une machine très curieuse, la vie végétative. Très perfectionnée. Très, très perfectionnée. Les biologistes sont en admiration devant cette machine qui marche matin et soir, nuit. Il n'y a pas de repos, pas de chômage. Tout le temps, ça marche tout le temps. Et on digère, on digère, on digère. Digère très bien et très mal quelquefois. Et on sait très bien que quand la vie intellectuelle est trop intense, il y a des répercussions sur la vie végétative. On commence à avoir mal à l'estomac. C'est le mal de tous les intellectuels. Parce qu'ils ne respectent pas assez la vie végétative, ils veulent la dominer. Alors ça va plus. Ça. Mal au foie. C'est pas drôle du tout pour la vie végétative d'être dominé par un intellectuel. La cohabitation est très très mauvaise. Tandis qu'avec quelqu'un qui ne pense pas, la vie végétative peut ronfler. Et marcher selon son rythme parfait. On est dans l'immanence de la vie végétative. C'est très très curieux. Donc, il y a un acte, opération vitale de la vie végétative, qui reste dans l'opération vitale de la vie végétative, qui reste à un niveau d'immanence, où le conditionnement reste conditionnement, mais où la détermination demeure dans l'immanence. Donc, pas d'acte qui finalise. Dans les opérations sensibles, les passions et la connaissance sensible, on dit couramment qu'il n'y a pas de finalité dans la vie sensible. Donc il faut essayer de saisir pourquoi. Prenez tout simplement le toucher, la vision, l'odorat ou les passions. Commencez à être passionné pour quelqu'un. La passion commence à naître. Vous ne l'aviez jamais vu avant. Parce qu'avant, on ne réfléchissait pas. Maintenant, on réfléchit. On dit, c'est curieux, ça pousse. Comme les asperges. Ça sort de la terre. Quelque chose qui... Je suis passionné. Je croyais que c'était complètement éteint. Le volcan était éteint. Puis ça commence à pousser. Et le climat du noviciat, le climat de la vie religieuse est très favorable. C'est une terre merveilleuse pour que les asperges poussent. C'est extraordinaire, étonnant. Pour que les passions poussent et que les passions se réveillent. On est très étonné de ça. Parce qu'on est lucide quand même. On essaie d'être lucide. Alors, quand il s'agit de la connaissance sensible, il y a un acte de vision. Il y a un acte de toucher. Il y a un acte de goûter. Qu'est-ce qui détermine cela? Est-ce que c'est le vivant? La subjectivité transcendantale du vivant de vie végétative? Ou est-ce que là, au contraire, pour la première fois, l'objet apparaît et détermine? Je vois une rose. Ma vision de la rose n'est pas la même que la vision de la terre. Je touche une table. Elle est dure. Je touche de l'eau. C'est pas dur. La douce eau. Ma sœur, l'eau, elle est une douceur extraordinaire. Surtout quand il fait chaud. Qu'est-ce qui détermine la connaissance sensible? C'est ce que je touche, ce que je vois, ce que je goûte. Donc, on est là en présence d'un acte, d'un objet qui actue la sensation. Mais là encore, le conditionnement est très fort. conditionnement lourd à porter. Donc, dans les sensations et dans les passions, je n'ai pas l'acte qui émerge pleinement. Il est retenu. C'est le petit oiseau qui a un fil à la patte et qui est dans la glu.